France Culture.
Bonjour Didier Fassin.
Bonjour Caroline Brouet.
C'est donc le cinquième et dernier épisode de nos entretiens que j'ai intitulé « Le chercheur et les citoyens » parce que nous allons parler de l'ethnographie publique, la façon dont vous choisissez vos sujets, la façon dont vous pouvez vous engager dans vos sujets, le souci des vies qui est effectivement le vôtre depuis toujours. Mais j'aimerais commencer par une citation de Claude Lefort que vous mettez vous-même en exergue d'un petit ouvrage intitulé « La recherche à l'épreuve du politique » paru aux éditions textuelles. Claude Lefort écrit dans « Écrire à l'épreuve du politique » en 1992 cette phrase que vous reprenez. « Écrire, c'est tout particulièrement l'épreuve d'un risque. Et celle-ci donne la ressource d'une parole singulière, mobilisée par l'exigence de déjouer les pièges de la croyance ou de se soustraire aux prises de l'idéologie. » Je pense que ça ouvre très bien cet épisode qui va être le nôtre entre l'épreuve d'un risque ou l'ethnographie comme sport de combat et la difficulté peut-être d'être parfois éloigné de l'idéologie. Première question que j'ai envie de vous poser, Didier Fassin, sur le choix des sujets et plus largement sur la façon dont vous considérez votre travail. Est-ce que, à la curiosité qui est la vôtre, dont on a parlé en première émission, vous ajoutez l'indignation comme moteur ? Et est-ce que vous considérez que le travail que vous faites est un travail d'engagement intellectuel, politique ? Si je voulais être un peu provocatrice, je vous poserais la question de la façon suivante. Est-ce que vous entendez critique comme une autre façon de vous dire « de gauche » ?
Alors, effectivement, je pense que beaucoup de travaux de recherche ont comme point de départ un élément soit de curiosité, soit d'indignation, soit parfois des deux. Et c'est vrai que, pour ma part, la dimension d'indignation, c'est-à-dire une certaine conscience de situation d'injustice, d'inégalité, a été une manière pour moi de choisir les sujets. J'ai travaillé en Afrique du Sud parce que je me rendais compte qu'il y avait à la fois une situation dramatique sur le plan de l'évolution de l'épidémie de sida, mais de plus des inégalités très importantes dans la distribution de cette maladie et que cette inégalité reposait sur une histoire. Donc ça a été le point de départ. Et puis ensuite, lorsque j'ai découvert avec bien d'autres évidemment la controverse qui se développait autour des positions hétérodoxes du président et d'une grande partie de la population noire, je me suis dit qu'il était important de comprendre et justement d'aller au-delà de cette évidence qui pouvait amener à dénoncer une politique. Et donc je dirais que mon travail a tout le temps cette dimension de partir de réalités qui me semblent être problématiques. Et ensuite, de faire ce travail de terrain, d'enquête, et puis ensuite d'écriture, en essayant de faire disparaître en grande partie la dimension émotionnelle ou de jugement que je peux avoir, que nous pouvons tous avoir par rapport à certains faits. C'est-à-dire que quand je parle de violence policière, j'essaye d'expliquer du point de vue des policiers comment ils justifient cette violence. Ça ne veut pas dire que j'y adhère ou que j'adhère à leur justification, mais je crois que c'est important pour celles et ceux qui me lisent d'avoir accès à ce que j'ai pu recueillir, moi, sur le terrain. Donc, c'est toujours un travail délicat qui consiste à partir de situations alors, qui sont assez souvent des situations peu explorées. Il y avait peu de travaux, peu d'enquêtes ethnographiques sur le sida lorsque j'ai commencé à travailler dessus en Afrique du Sud. Il y en avait quand même quelques-unes. Il y avait très peu en France de travaux ethnographiques sur la police. Il y avait en revanche un peu plus de recherches qui étaient menées sur la prison. Mais en tout cas, j'ai souvent essayé de choisir des thèmes et des questions qui étaient soit moins explorées, soit moins présentes dans l'espace public. Prenons le cas de la prison. La prison, elle est absente. Il n'y a pas de débat autour de l'évolution punitive de nos sociétés, et en particulier de la société française, qui est la seule aujourd'hui en Europe à continuer à avoir une augmentation très régulière de sa population carcérale, quand les autres pays sont aujourd'hui en diminution. Donc tout ça n'est pas discuté, et je dirais que le travail de recherche permet d'apporter des éléments de connaissance, des éléments de réflexion critique sur ces éléments.
C'est une question très importante parce que peut-être plus encore pour la sociologie que pour l'anthropologie, mais disons pour les sciences sociales en général, elle pâtissent souvent d'un regard critique qui partirait de l'idée que oui, les sociologues souvent, ou en tout cas les chercheurs en sciences sociales, vont confirmer sur le terrain des idées qu'ils ont déjà toutes faites. Et c'est une question qui est fondamentale pour à vous poser, vous qui êtes un très grand chercheur en sciences sociales, Didier Fassin. Et je vais vous la poser en partant d'une introduction que vous écrivez, vous, sur l'intention à l'origine de la force de l'ordre, donc votre travail sur la police. Vous écrivez « Il s'agissait de tenter de rendre compte d'une réalité de notre société qui m'apparaissait intolérable, à savoir le traitement fait aux habitants des quartiers populaires et singulièrement aux adolescents et aux jeunes. » Est-ce que là, vous ne faites pas preuve d'un biais qui est justement d'être allé confirmer sur le terrain un postulat politique de départ nourri par une indignation personnelle ?
Alors le constat, je pense que chacun peut le faire. Et justement, mon travail a été d'essayer de restituer à la fois ce qui se passe effectivement au quotidien dans les relations entre des unités de police et des habitants, et en même temps d'en rendre compte à la fois à travers un contexte historique et politique particulier où on demandait aux policiers d'avoir cette attitude et d'avoir avec des propos qui étaient tenus par au plus haut niveau de l'État sur les quartiers populaires à l'époque où j'y travaillais entre 2005 et 2007. Et en même temps, de montrer à la fois du côté des policiers eux-mêmes les logiques dans lesquelles ils se trouvaient ou les justifications qu'ils pouvaient donner, mais également les différences qu'il y avait. Et pour moi, ça a toujours été très important de ne pas essentialiser ou enfermer les différentes catégories de personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans une seule image.
C'est montrer toutes les nuances et toute la complexité à la fois des personnes et des situations.
Absolument, et j'avais même essayé de le théoriser d'un point de vue moral en disant que il y avait deux dimensions qui me semblaient importantes. C'est comment les policiers se situent par rapport à leur public et est-ce qu'ils considèrent que ce public, c'est une communauté morale dont ils font partie ou dont ils ne font pas partie. Dont ils ne font pas partie, c'est notamment à travers le racisme, en considérant que ces jeunes, par exemple, ne sont pas comme eux. Mais à l'inverse, d'autres n'ont pas cette attitude et considèrent que, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire le contraire étant acte délinquant, voire criminel, eh bien, il n'y avait pas de raison de les traiter différemment. Donc, il y a cette question de la constitution d'une communauté morale et de savoir si on s'y inclut ou pas. Et deuxième élément, c'est la question de la déontologie policière, c'est-à-dire, il y a des règles dans le métier. Est-ce qu'on les respecte parce qu'on les considère importantes ou est-ce qu'on ne les respecte pas? Alors bien sûr, il y avait deux situations extrêmes et assez banales où des gens pouvaient être plutôt bienveillants à l'égard de l'ensemble de leur public et à ce moment-là respecter les règles de leur métier et d'autres où au contraire ils étaient, disons, racistes et violents. Mais il y avait aussi des combinaisons intermédiaires avec des policiers qui pouvaient, tout en étant en ayant des pratiques, disons, discriminatoires, eh bien, ne pratiquaient pas la violence parce que ça ne correspondait pas à leur code de déontologie. Donc voilà, je crois que c'est ça qui est le travail. On passe pas 15 mois sur un terrain pour vérifier ce qu'on croit savoir déjà. Et c'est une chose que je dis toujours à mes étudiants ou étudiantes. Si à la fin d'une enquête, on a la vérification de ce qu'on savait au début, ça n'était pas la peine de faire cette enquête. On n'est pas dans un travail hypothético-déductif, c'est-à-dire qui a tout à fait sa légitimité, c'est-à-dire que on a une hypothèse et on cherche à la vérifier en général quantitativement. On est au contraire dans une démarche inductive où on essaye au fur et à mesure de comprendre des choses et on découvre ce que au départ on n'avait pas même imaginé.
Ça a été le cas la plupart du temps dans vos enquêtes.
Absolument.
Il y a un livre dont on n'a pas encore parlé et qui me semble important, non seulement parce que c'est le dernier en date, Didier Fassin, au moment où nous enregistrons ces émissions, mais aussi parce qu'on peut s'interroger sur le statut de ce livre qui a rencontré, avant même sa publication, puisque le sujet était déjà en cours, vous aviez écrit des articles qui avaient suscité des polémiques, le sujet lui-même et le livre lui-même a provoqué tantôt du silence, tantôt de fortes critiques quant à votre démarche. Ce livre, c'est Une étrange défaite, sous-titré sur le consentement à l'écrasement de Gaza. Je voudrais vous demander d'abord quel est le statut de ce livre, dans quelle mesure il s'inscrit dans la continuité de vos travaux ?
Alors c'est un livre effectivement un petit peu particulier dans la mesure où je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Orient, même si j'y ai conduit quelques recherches sur le traumatisme avec l'une de mes doctorantes il y a quelques années. Mais en réalité, le livre ne parle pas véritablement du Moyen-Orient, mais c'est un livre sur la question du consentement. Soit du consentement passif, c'est-à-dire laisser se produire les choses, soit d'un consentement actif, c'est-à-dire aider à ce qu'elles se réalisent. Et donc, en l'occurrence, il s'agit de la guerre qui est menée à Gaza, avec la destruction à la fois de la quasi-totalité des bâtiments et des infrastructures et d'une partie importante de la population. Et donc, à ce consentement, donc à cet écrasement de Gaza, s'ajoute une répression à l'encontre de ceux qui veulent proposer une autre lecture et qui ont une autre attente vis-à-vis du politique, que ce soit en demandant un cessez-le-feu, que ce soit en demandant une paix juste et durable en Palestine, qui serait bien sûr bénéfique à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens. Eh bien, dans ce contexte de répression qui pouvait aller jusqu'à des convocations devant le juge et puis toute forme de stigmatisation et de calomnie dont j'ai été moi-même l'objet, il m'a semblé qu'il était important que lorsque on a une position comme la mienne, de faire ce qui relève très explicitement de la chaire que j'ai au Collège de France, qui s'intitule « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». Quelles questions morales et quels enjeux politiques plus importants y a-t-il aujourd'hui au plan international que ce qui se joue dans ce conflit ? Donc, à la fois, c'est effectivement un travail, disons, différent de ce dont nous parlions avant. Mais en même temps, j'ai aussi fait des ouvrages qui étaient plus théoriques, comme « Punir une passion contemporaine » ou bien « La vie mode d'emploi critique ». Et donc, il m'a semblé qu'il était important de pouvoir faire entendre une analyse de ce qui, pour moi, est la plus grave faillite morale du monde occidental depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Au fond, vous êtes mu, vous avez toujours été mu par les vies inégales ou l'inégalité des vies. En sous-texte de mort d'un voyageur, c'est est-ce que la parole de la force publique vaut plus que celle d'un marginal de la communauté des gens du voyage, par exemple. Là, peut-être même avec une étrange défaite, vous avez parlé de consentement, mais c'est aussi un livre, me semble-t-il, sur l'asymétrie des existences israéliennes et palestiniennes, sur l'asymétrie du traitement médiatique des deux populations et sur l'asymétrie du traitement des massacres. Et peut-être même aussi sur le fait que la défense du peuple palestinien passe pour de l'antisémitisme. Mais ça, c'est pour la partie peut-être plus polémique, disons. Donc, restons sur cette asymétrie des existences. Vous avez toujours été mû par ça ? Et donc, c'est peut-être ça le fil rouge, ou en tous les cas, la continuité avec ce livre-là.
Absolument. Cette question de l'inégalité des vies, que j'ai reprise effectivement dans Une étrange défaite, pour moi, renvoie aussi à quelque chose qui est que les termes d'un débat tel qu'il a été posé par à la fois les gouvernements, une partie des intellectuels, les médias, c'est ce qu'un journaliste appelait un campisme opposant les pro-israéliens et les pro-palestiniens. Et personnellement, je ne me situe pas dans un camp pro-palestinien.
Malgré ce qu'on vous dit.
Bien sûr, mais je me situe, et justement, non seulement je me situe, mais je plaide pour que soit reconnu un camp qui est un camp de la vie, c'est-à-dire du maintien en vie de l'ensemble, bien sûr, aussi bien israélienne que palestinienne, mais en l'occurrence, la guerre, elle est essentiellement par rapport à des populations palestiniennes. Donc, le respect de la vie et de la dignité des vies, et donc pas simplement de la vie biologique, mais aussi de la vie sociale, le respect du droit international et le respect des droits humains. Donc, cette caricature, dont on voit bien qu'elle correspond à une volonté polémique, qui enferme les gens dans l'idée d'être pro-palestinien. Quand j'en parle avec beaucoup de collègues, y compris de gens qui font dans des manifestations, eh bien, eux se reconnaissent du côté d'un camp du droit et d'un camp de la vie, et non pas d'un parti pris d'un côté ou de l'autre. Mais effectivement, cette inégalité des vies, dans le cas de la situation aujourd'hui à Gaza. Et c'est une situation évidemment extrême, qui l'est depuis longtemps d'ailleurs, hein, puisque dans les différentes guerres de Gaza, le rapport des morts entre civils israéliens et civils palestiniens est toujours au-delà de 250 pour un. Et aujourd'hui, on sera probablement à des chiffres encore plus élevés. Donc toute vie, évidemment, qui disparaît est un drame, le 7 octobre comme à partir du 8 octobre. Donc cette question de l'inégalité des vies, qui évidemment n'est pas spécifique à ce contexte, je l'ai étudié dans de nombreux autres, se manifeste avec une particulière acuité et, je dirais, dans une temporalité qui est celle d'aujourd'hui.
On vous a notamment reproché, on en terminera avec ce livre pour élargir le propos, Didier Fassin, mais on vous a notamment reproché toutes vos omissions, en fait, en disant que vous ne disiez pas un certain nombre de choses parce que ça vous arrangeait dans votre démonstration, par exemple, concernant la question des otages, par exemple, concernant les manifestations monstres contre Netanyahou, par exemple, l'explosion de l'antisémitisme, et certaines mauvaises langues en ont déduit et conclu que vous étiez un idéologue décolonial. Êtes-vous un idéologue décolonial ?
Alors, je n'ai aucun lien et aucun crédit du côté des études décoloniales, donc certainement pas. Je ne les attaque pas non plus, je ne les connais pas si bien non plus, mais je suis certainement pas un décolonial, même si je pense que la question coloniale est évidemment extrêmement importante aujourd'hui. Mais vous parliez des otages et des manifestations. Le livre en fait état, simplement, on voit très bien comment il est possible de faire semblant de ne pas avoir lu des choses qui sont écrites. Mais juste un petit ajout par rapport à ce que vous disiez au départ, vous avez mentionné des silences et des critiques. Je dois dire aussi que je reçois depuis un an des lettres du monde entier, de citoyens, de chercheurs et de chercheuses, qui sont extrêmement chaleureuses et extrêmement encourageantes pour le travail que je réalise et ces manifestations qui sont privées parce que justement elles sont difficiles à manifester publiquement à de rares exceptions près, elles existent et elles sont très nombreuses.
Dont acte, et j'ajoute juste une petite chose concernant la lecture de ce livre qui est glaçante. Et d'autant plus effrayant qu'on a le sentiment, Didier Fassin, que vous l'écrivez pour laisser une trace. Vous le dites vous-même, mais à la lecture du livre, on s'en rend parfaitement compte. Est-ce que ça fait partie des risques du métier ? Vous parlez de crise morale, vous avez aussi parlé de la crise sanitaire, en prenant l'exemple de la pandémie de Covid-19, et dont vous avez parlé dans un livre que vous avez dirigé, La société qui vient, pour montrer à quel point la crise sanitaire elle-même avait révélé les inégalités en matière de santé, notamment. Et votre leçon inaugurale de 2023 s'intitulait « Sens social par temps de crise ». Ce temps de crise et la façon dont un livre peut être reçu, ça fait partie des risques de votre métier ?
Oui, bien sûr. Je pense que dans le travail des sciences sociales, il peut y avoir des risques qui peuvent être sur le terrain. Moi-même, j'en ai eu l'expérience lors de mon travail, notamment à la frontière entre l'Italie et la France, mais j'en avais eu un petit peu aussi l'expérience dans des recherches précédentes. Mais le risque après d'écrire, évidemment, il existe. Mais je dirais que ça, pour moi, ça fait aussi partie d'abord de ce qui me semble être l'intégrité du chercheur, c'est-à-dire d'aller jusque là où il pense qu'il doit ou qu'elle doit aller pour dire ce qu'il y a à dire. Donc ça comporte ce risque qui est celui de finalement d'une présence publique pour dire un certain nombre de choses que l'on considère comme importantes. Et quand je parle de présence publique, je veux dire aussi, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui autour du livre dont nous venons de parler, en intervenant à la demande d'associations ou d'universitaires, parce que je crois que ce qui est très important, c'est le débat public, mais un débat qui soit respectueux. C'est ce qui n'a pas été le cas au début à mon égard, c'est-à-dire des attaques ad hominem, alors que je crois qu'au contraire, il faut pouvoir débattre sur les faits, sur les analyses, et non pas en disqualifiant son adversaire. Je crois que c'est le niveau le plus faible de la critique lorsqu'on en vient à attaquer les personnes.
Dans un livre que nous avons cité dans le deuxième épisode de ces Avoines Nues, Didier Fassin, Quand les corps se souviennent, expérience et politique du sida en Afrique du Sud, au tout début, dans l'avant-propos, vous écrivez « Je crois que le travail dont ce livre rend compte peut être socialement utile, que l'anthropologie ne relève pas de l'art pour l'art, que donner un peu plus d'intelligibilité aux choses du monde, surtout lorsqu'elles paraissent opaques, incompréhensibles, irrationnelles, peut contribuer à en faire reculer le caractère injuste, inéluctable, inacceptable, et pour tout dire, je suis convaincue que la science sociale ne vaudrait pas une heure de peine si elle n'avait pas un rôle politique à jouer dans la cité. » 19 ans après, vous souscrivez, vous réécririez ces propos?
Oui, alors vous aurez remarqué que c'est la fin est une référence explicite à Émile Durkheim, qui disait qu'une sociologie ne vaudrait pas une heure de peine si elle n'avait pas cette fonction sociale. Alors, bien entendu, je l'emploie un peu différemment. Je pense qu'il peut y avoir cette manière de mêler l'engagement et la critique. Pour ma part, j'essaie vraiment de séparer les deux choses, c'est-à-dire que j'ai une activité citoyenne, j'écris des tribunes, je signe des pétitions, j'interviens dans un certain nombre de situations, et bien sûr, cette présence-là, elle est nourrie des travaux que je fais, parce que j'essaie de ne pas intervenir sur des sujets que je connais mal. Mais d'un autre côté, le travail scientifique que j'essaie de faire, y compris une étrange défaite, c'est un travail qui repose sur des faits, sur des analyses, sur une documentation, sur des lectures, et qui relève d'un travail critique. Et ce travail critique, il est différent pour moi de l'engagement que je peux avoir comme citoyen. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Et j'entends la critique au sens, disons, de Michel Foucault, c'est-à-dire de voir là où on croit que les choses vont de soi, qu'elles sont comme elles devraient être, eh bien, montrer qu'en réalité, ce sont des choix de société qui ont amené à ce que les choses sont comme elles sont, et que d'autres choix seraient possibles, que d'autres choix ont existé dans le passé, que d'autres choix existent dans d'autres sociétés, et que par conséquent, il n'y a pas d'inéluctabilité à ce monde tel qu'il est aujourd'hui, et notamment ce monde avec ses inégalités et ses injustices.
Le citoyen que vous êtes veut changer le monde, et l'anthropologue que vous êtes veut changer le regard sur le monde ?
Exactement. C'est d'ailleurs une division en quelque sorte du travail qu'il y a dans la philosophie politique critique entre des approches, disons, nietzschéennes et wittgensteiniennes qui portent sur le regard, et c'est ce que Foucault reprend lui-même, et des approches de type marxiste ou freudienne même, cette volonté de changer le monde. Et je pense que les deux ne sont pas dans mes travaux, en tout cas j'ai essayé d'affirmer et de montrer surtout que les deux ne s'opposaient pas et qu'il était possible à la fois de produire un autre regard et que cette production d'un autre regard pouvait contribuer certes modestement à transformer le monde ou tout simplement à faire entendre la voix de celles et ceux qui cherchent à le faire.
Entre deux mondes, parce que je citais le citoyen et l'ethnographe qui ne forment qu'un, c'est vous, Didier Fassin, mais entre deux mondes aussi parce que vous êtes entre deux pays, vous êtes entre la France et les États-Unis où vous vivez depuis une quinzaine d'années maintenant. Entre deux mondes aussi parce que nous sommes entre deux mondes. Dans ce livre que j'évoquais tout à l'heure, La société qui vient, vous parlez d'un moment critique qui appelle à une réflexion de fond sur les choix que nous faisons en matière de traitement des vies humaines, des traitements des vies non humaines, de l'environnement, de la planète et tout ça. Et il me semble que c'est un essai qui est sous-tendu par la phrase de Gramsci dans ses carnets de prison, à savoir que nous sommes entre un vieux monde qui meurt et un nouveau qui est très très lent à apparaître. Évidemment, on se souvient du milieu, dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Est-ce que c'est pour ça que on pouvait entendre dans votre leçon inaugurale sur les sciences sociales par temps de crise une très grande gravité? Et est-ce que, comme on ne va pas terminer sur une note trop grave, vous diriez que le monde actuel gagnerait à penser en ethnographe critique?
En tout cas, le monde gagnerait, en tout cas, ceux qui gouvernent ou celles et ceux qui cherchent à le transformer auraient beaucoup intérêt à avoir une meilleure connaissance des sociétés, des rapports de pouvoir, des relations entre les groupes, telles que les sciences sociales essayent de les explorer. Donc, une des choses qui est vraiment navrante depuis déjà un certain temps, dans le cas de la France, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, c'est à quel point les responsables politiques ont une méconnaissance assez radicale de ce qui se passe dans la société et que les filtres qu'ils utilisent pour comprendre cette société leur donnent une vision extrêmement biaisée et que le travail des sciences sociales, mais sciences humaines également, et puis d'autres, devrait faire partie de l'attente de connaissances que des responsables politiques devraient avoir. Mais encore une fois, je parle des responsables politiques, mais c'est vrai également, bien sûr, de l'ensemble des citoyens. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, moi, sur cette présence publique des sciences sociales, c'est-à-dire sur à la fois une manière de travailler, une manière d'écrire qui permet d'échanger ensuite avec des lectrices, des lecteurs.
Public qui s'élargit puisque, par exemple, la force de l'ordre a été transposée en bande dessinée. Donc là, c'est aussi l'envie, sans doute, de gagner un public encore plus large.
C'est à la fois une tentative de trouver d'autres moyens d'expression des sciences sociales. Et c'est le cas aussi avec le livre « Mort d'un voyageur » pour lequel il y a un travail d'adaptation au cinéma qui est en train de se faire donc et auquel je suis associé. Donc effectivement, explorer ces différentes manières de participer au fond à la vie de la société, mais en particulier à la vie démocratique de la société, je crois que c'est un objectif qui pour moi est important et une nécessité aussi pour les sciences sociales.
Vous vivez, Didier Fassin, aux États-Unis depuis une quinzaine d'années. Au moment où nous diffusons pour la première fois ces À Voix Nues, un président vient de prendre ses fonctions. Votre sujet de l'année 2025 au Collège de France, c'est la violence. Faut-il voir un lien ?
Un lien, non, et d'autant plus que je n'anticipais pas, lorsque j'ai choisi ce thème, la victoire de Donald Trump. Néanmoins, bien sûr, je crois que la question que j'essaie de poser dans ce cycle de leçons, dans ce cours, sur les formes de la violence, c'est précisément d'essayer de comprendre les différentes formes de violence et pas simplement la violence physique qu'il peut y avoir entre deux individus ou entre deux groupes, mais d'en voir les multiples formes. Et il peut y avoir une violence économique, il peut y avoir une violence judiciaire, etc. Et donc, c'est vrai que la société états-unienne aujourd'hui s'engage dans un tournant dans lequel, d'ailleurs, il y a une violence aussi contre les faits, une violence contre le savoir, une violence contre les chercheurs et les chercheuses. Donc c'est une période qui, aux États-Unis, est extrêmement inquiétante.
Il vous reste du travail à faire.
Il reste du travail à faire.
Merci Didier Fassin.
Merci Caroline.
Pour ces 5 entretiens. C'était À Voix Nues avec Didier Fassin, réalisation Asia Weber, prise de son Laurent César, chargé de programme À Voix Nues Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.